Lamentation, chapitre 3. Nous allons continuer, poursuivre finalement ce que nous avions commencé la semaine dernière. Lamentation, chapitre 3. Nous lirons les versets un peu plus tard, les versets 21 à 26. Alors, semaine dernière, nous avons vu que le livre de Lamentation révélait la situation pathétique de Jérusalem suite à la conquête des Babyloniens, qui s'est produite, que Dieu a permis suite à la conséquence des péchés du peuple et de son mépris pour les avertissements des prophètes. Et en étudiant les lamentations, nous pouvons mieux percevoir le chagrin, le remords et les conséquences qui accompagnent le péché. En même temps, eh bien, on peut découvrir les compassions et la miséricorde que le Seigneur déploie envers les personnes qui se tournent vers lui dans leur chagrin. Et le livre des lamentations contient les réactions douloureuses suite à la destruction de Jérusalem et de son temple vers 586 avant Jésus-Christ, qui s'est produite du vivant de Jérémie. On sait que Jérémie était un homme dont le cœur était envahi d'une profonde tristesse et qui pleurait ouvertement sur les péchés de son peuple, au point où il a supporté la dépression à cause de son message, qui n'a pas été entendu pendant un temps passablement long. On avait vu ça la semaine dernière. Et sa douleur est compréhensible. Si vous regardez dans le livre de Jérémie à la maison, les chapitres 32 et 33, vous apprenez que les gens d'Israël et de Juda n'avaient fait que ce qui déplaisait au Seigneur. Et en gros, ils avaient adopté la façon de vivre des païens autour d'eux. Et à cause de leurs péchés, Dieu s'apprêtait à faire tomber un jugement incroyable sur eux. Et c'est dans ce contexte que Dieu va envoyer Jérémie prêcher sa parole à un peuple qui ne voudra pas entendre son message. Et pourtant, lorsque la population de Jérusalem sera amenée en captivité, le prophète Jérémie ne se réjouira pas. Au lieu de cela, nous pouvons lire dans les 5 chapitres du livre des Lamentations ici, qu'il avait le cœur brisé, qu'il souffrait avec eux. Et pourtant, il avait été rejeté, détesté, moqué, emprisonné, ignoré. Le roi avait même refusé sa prédication et il l'avait même fait mettre en prison. Et pourtant, après avoir vu sa Jérusalem bien-aimée, saccagée, profanée, détruite, eh bien, après avoir vu l'horreur de la guerre, la brutalité de l'ennemi, les affres de la faim, Jérémie était capable de se tenir debout parmi les décombres de la ville, à travers les cadavres qui jonchaient le sol, et hausser la voix pour louer Dieu pour sa grande fidélité à l'égard de son peuple. Et nous avons vu la semaine dernière que si Jérémie avait pu tenir le coup, malgré les nombreuses épreuves et les nombreux problèmes qu'il avait connus tout au long de son ministère, c'est qu'il avait une juste compréhension de la réalité de qui était Dieu. Et c'est une question que je vous avais posée la semaine dernière. Est-ce que vous avez une réalité, une juste réalité de qui est Dieu? Parce que ça change complètement votre vie chrétienne. Jérémie savait que peu importe si les choses allaient bien ou tout s'effondrait, Dieu serait toujours Dieu et que Dieu serait éternellement fidèle à son peuple. Dites amen à ça. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, si votre vie est droite devant le Seigneur, Dieu entend vos prières et Dieu va répondre en son temps à ses prières. Ouais. Par contre, il y a des gens qui ont le cou raide. Hein? Dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui ont le cou raide. Et des fois, ça prend Dieu, faut qu'il pousse le bouchon un peu plus loin pour que briser ce cou, pour amener les gens dans l'humilité, dans la repentance, et pour qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et se tournent vers lui. Sinon, il y a un jugement qui tombe sur les gens. Hein? Ouais. Voilà. Et je vous invite à continuer à prier, parce que c'est ce Dieu-là qu'on sert. Dieu sera éternellement fidèle à son peuple. Mais on va voir qu'il y a des conditions. Hein? C'est vrai que Dieu nous promet d'être fidèle, mais il y a des conditions. Il y a toujours une condition à une promesse de Dieu. Et au chapitre 3, verset 21-26, dont vous devriez avoir le doigt dessus, eh bien, il est écrit ceci. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Pas ma misère, pas mon épreuve, pas ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui me donnera de l'espérance. C'est ce qu'on ne doit pas repasser dans notre cœur. Qu'est-ce qui vous donne de l'espérance ce matin? Est-ce que ce qui vous donne de l'espérance ce matin, est-ce que c'est ça qui passe dans votre cœur ce matin? Ça fait partie d'avoir une juste réalité de qui est Dieu. L'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la résurrection, l'espérance que Dieu, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça, c'est ce qui se rappelle dans son cœur. Oui. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est une autre chose qui se rappelle. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qu'elles sont inépuisables. Vous savez, le pétrole, un jour, il n'y en aura plus, on cherche d'autres solutions, hein? Oui. Mais les compassions et les bontés de l'Éternel, elles ne s'épuiseront jamais. Est-ce que vous êtes amen à ça? Jamais. Jamais. Oui. Oui. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel. Je le dis, l'Éternel est mon trésor, mon partage. Frères et sœurs, le Seigneur, à travers ses passages ce matin, nous invite à nous remettre en question. Est-ce qu'il est votre trésor ce matin? Est-ce qu'il est votre partage? Oui. C'est pas Jean Cudon qui parle, hein? Je suis en train de vous citer les Écritures ce matin. Oui. Voilà pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Condition à la promesse. Dieu est bon pour celui qui espère en lui, mais pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours, la délivrance de l'Éternel. Et hier, ce passage, eh bien, je m'en suis rappelé parce qu'on est allé à la réunion des délégués des APEB et il y a eu un moment de louange et de prière. Et ce qu'on nous a demandé, au lieu de prier, on a dit « Faites silence. » On fait silence. Ouais. Il y a eu un esprit de repentance qui est descendu dans la réunion et il y a des gens qui ont confessé des choses. On a laissé le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Il y a des gens qui ont confessé des choses. Des gens qui ont confessé qu'ils manquaient de courage. Les dirigeants d'église, on parle de dirigeants d'église, là, pour parler du péché, pour faire permettre à Dieu de faire un nettoyage dans leur église, qui tolèrent le péché. Ouais. Ils ont confessé. Ouais. Et je ne sais pas si vous le savez, on vit dans un siècle où on a horreur du silence. Hein. Et c'est facile pour nous d'avoir du bruit, parce qu'on rentre, on saisit une télécommande en rentrant, comme les cow-boys à l'époque du Far West. Hein. Ça prend de la musique sur la sono, ça prend du son sur la TV, ça prend des lumières qui s'allument tout seul. On est comme ça, hein? Mais faire silence, hein, c'est une chose qu'on a en horreur aujourd'hui. Hein? Et vous savez une chose, quand on parle, on n'entend pas Dieu nous parler. Il faut apprendre à faire silence pour entendre la voix de Dieu parler à nos cœurs, chers amis. Et l'Église a besoin de revenir à cette dimension de faire silence devant le Seigneur. Et Jérémie l'avait bien compris, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, la délivrance de l'Éternel. Jérémie était encore capable de garder espoir lorsqu'il faisait face à une situation désespérée parce qu'il croyait en la fidélité de son grand Dieu. Et la semaine passée, qu'est-ce que je vous ai dit? Il a prêché pendant 50 ans, ce cher Jérémie. Il n'a pas vu une seule âme venir au Seigneur. Comme récompense, il a été mis dans un donjon. Ouais. Il a été mis dans un donjon. Et vous savez, j'ai lu un passage, Galates chapitre 1, verset 10, lors de l'assemblée qu'on a eue il y a quelques semaines, qui dit ceci, « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. » Chers amis, si vous vous attendez, vous voulez aller dans le ministère, vous attendez à recevoir des récompenses de la part des hommes, eh bien, allez vous acheter des médicaments et des seringues, parce que vous allez en avoir besoin pour continuer. Il faut faire plaisir, c'est le Seigneur qui nous récompense, frères et sœurs. Les récompenses, elles ne sont pas ici-bas, les récompenses, elles sont en haut. Ouais, ouais. Et ça, c'est des promesses de la part de Dieu. Hey, frères et sœurs, si lui n'a pas été épargné encore bien plus, ses serviteurs ne seront moins épargnés. Hein? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Hein?
Ouais.
Ouais. C'est bien plus facile d'attaquer les serviteurs que d'attaquer le maître. Hein? Parce qu'on sait que le maître est ressuscité, le maître est vivant, il voit ce qui se passe, on va tous avoir des comptes à rendre devant lui. Hein? Pour ce qu'on dit, pour ce qu'on entend. Pour ce que les autres entendent qui sort de notre bouche. Frères et sœurs, on a un Dieu extraordinaire, on a un Dieu qui est patient quand vous regardez ça. Hein? Combien vous pensez que ça a pris d'années pour que Dieu donne un jugement sur Jérusalem? Mais ça a pris une génération, génération, génération. Il a envoyé des prophètes. On a sué les prophètes. Ouais. Ouais. Et Jésus va même le dire aux prêtres. Il serait honteux que vous ne tuiez pas le prophète que Dieu a envoyé à Jérusalem. C'est là que vos ancêtres tous les prophètes ont été tués à Jérusalem. Frères et sœurs, on a un Dieu extraordinaire. Et moi, je bénis le Seigneur de nous donner un gars comme Jérémie. C'est vrai qu'il s'est lamenté, mais il ne s'est pas lamenté pour rien. C'est un gars qui avait une compassion pour les âmes. C'est un homme qui était déprimé de voir le peuple de Dieu qui baignait dans le péché, qui imitait les peuples qui étaient autour. Et qui intercédait auprès de son Dieu pour épargner ce peuple, quoi. Et pourtant, Dieu avait dit, écoute, le seul message que tu vas amener, c'est un message de jugement, parce que le jugement, il était arrêté, c'est un jugement, un message de jugement. Frères et sœurs, comme Jérémie, nous traversons tous des moments où nous avons l'impression que notre vie peut s'effondrer du jour au lendemain. Quand nous traversons ces moments difficiles, nous avons besoin d'avoir la certitude que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Dieu ne se contente pas de dire qu'il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Heureusement, la Bible donne une preuve accablante de la fidélité immuable de notre grand Dieu. Le mot « fidélité » au verset 23 parle de celui qui respecte ce qu'il a promis. Ça manque dans notre génération aujourd'hui, ça. Les gens n'ont aucun respect pour rien, encore moins pour leurs paroles. Vous savez, à l'époque de l'Ancien Testament, on enlevait sa sandale quand on voulait signer une entente avec quelqu'un, on lui donnait notre sandale, quoi. Ça, c'était un signe, c'était signé. Il n'y avait pas besoin d'un notaire, d'un avocat. C'était fait, ça. Aujourd'hui, écoutez, on conteste les testaments, on conteste tout. Les signatures n'existent pas. Il n'y a aucun respect pour rien. Ouais. Mais ce qui est béni, frères et sœurs, le mot fidélité au verset 23, ça ne fait pas référence à l'homme, ça fait référence à Dieu. Et Dieu respecte ce qu'il a promis. Et Dieu respecte. Ce qu'il a promis, il y a une promesse qu'il nous a faite qui devrait nous encourager ce matin. Dieu a dit qu'un jour, à la fin des temps, tous nous allons ressusciter. Il y a une deuxième résurrection, il ne faut pas oublier. Il y a une première, il y a une deuxième. Ouais. Il y a deux résurrections. Ouais. Parce que ceux qui sont morts sans Christ vont ressusciter aussi. Ils vont avoir un corps éternel aussi. Ouais. Mais pour aller en enfer, pour souffrir pour l'éternité. Quoi. Ouais. Ça, on oublie, ceux qui meurent sans Christ. Ça va en enfer, non, ils vont ressusciter. Ils vont avoir un corps, comme vous et moi. Un corps éternel. Mais ne rentreront pas dans la félicité éternelle. Ça va être pour subir un jugement. Le jugement que Dieu proclame partout, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ouais. Et frères et sœurs, on a un Dieu qui est fidèle, alors s'il l'a promis, c'est ce qui va arriver. Ouais. La semaine dernière, nous avons commencé à examiner un des trois mots importants dans ces versets qui nous disent pourquoi Jérémie a pu proclamer « Ah, que ta fidélité est grande ». Dieu est fidèle, on avait vu ça, Dieu est fidèle dans sa grâce. Chapitre, verset 23, la première partie du verset 23. Dans sa grâce, il nous sauve, il nous garde, il nous protège, frères et sœurs. Amen. Ça veut dire quoi, dans sa grâce? C'est qu'il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé, c'est un engagement qu'il a pris. Extraordinaire, hein? On a le privilège de servir un Dieu qui est gracieux. C'est extraordinaire. Ouais. Un Dieu qui est gracieux, et il ne nous doit rien. Vous savez, on est quelques semaines, nous aussi, il fallait quelques semaines sans avoir de coup de téléphone, sans entendre personne parler, on déprimerait. Mais Dieu a été pendant un certain temps tout seul. Les trois personnes de la Trinité ont été tout seuls. Ils n'ont pas besoin de personne pour sourire, pour être dans la joie, pour être dans la paix. Dieu s'auto-suffit à lui-même, quoi. Il n'a pas besoin de nous. Et on va voir pourquoi. Pourquoi il s'intéresse à nous, on va le voir, là. C'est extraordinaire quand on voit ça. Et on pourrait courber la tête à chaque jour quand on vient dans la prière et dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Ouais. Parce que tu es loin dans mes pensées aujourd'hui. Ouais. Tu es loin, Seigneur. Je me suis levé, tu n'étais même pas le premier. La première chose sur quoi j'ai sauté, c'est que j'ai zappé pour voir le score de mon équipe de football préférée. J'ai zappé pour écouter telle nouvelle. J'ai zappé pour ci, j'ai zappé pour ça. Ouais. Et là, maintenant que j'ai fait mes petites affaires, Seigneur, là, je viens devant toi. Je demande pardon, Seigneur. Oui. Pardon. Et quand on lit pourquoi Dieu s'intéresse à nous, on commence à être capable de laisser tomber des choses qui ne sont pas de lui. Ce matin, on va voir un deuxième point. La semaine prochaine, Dieu voulant, si le Seigneur n'est pas revenu, on regardera un troisième et dernier point. Regardez versets 22b, 23. C'est compassionné et fidèle dans ses promesses. Ses compassions ne sont pas à leur terme, dit Jérémie, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Et le mot compassion est un mot qui signifie en hébreu littéralement ventre. Elle ventre. Oui. Il veut dire plus exactement être tout remué dans le cœur à cause de l'amour que l'on éprouve pour un autre. Ça, c'est l'amour compassion, frères et sœurs. Oui. Quand on dit j'ai de la compassion pour quelqu'un, là, ça veut dire qu'on est remué à l'intérieur de nous, quoi. On a les boyaux qui se tordent, quoi, à l'intérieur de nous. Eh bien, le cœur fait la même chose, quoi. Ouais. C'est ça le mot compassion, Ouais. On a un mot courant aujourd'hui, C'est le mot qui parcourt le monde aujourd'hui. Il faut s'aimer. Ouais. Mais je pense qu'il faut donner une définition de ce que c'est aimer, parce qu'il n'y a jamais eu autant de guerres dans toute l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de guerres que dans notre époque, quoi, au 21e siècle. Ouais. Pas des guerres mondiales, mais des guerres régionales, il n'y en a jamais eu autant quand on additionne tout ça, quoi. Ouais. Et pourtant, on entend aux nouvelles, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous, hein, c'est des chansons d'amour, et ainsi de suite, quoi. Ouais. Mais la compassion, hein, aimer sans compassion, c'est pas aimer, hein. Une des caractéristiques de l'amour, c'est avoir une compassion pour l'autre. Ouais. C'est être capable de se mettre à la place de l'autre. Hein. Le monde utilise le mot empathie. Hein. Il faut avoir de l'empathie, c'est ça. Hein. Avoir de l'empathie pour les autres, ça arrive même pas à la cheville du mot compassion, quoi. Parce qu'avoir de l'empathie, ça implique pas nécessairement que le cœur est impliqué. Mais le mot compassion, là, ça débute d'abord dans le cœur, frères et sœurs. Et Dieu, là, ses compassions ne nous feront jamais défaut. C'est une promesse qu'il nous fait dans sa parole. C'est pas extraordinaire. Et ça vient du cœur de Dieu. Dieu nous parle avec son cœur ce matin, frères et sœurs. Et Jérémie avec un a compris ça, quoi. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se nous renouvellent chaque matin. Alors quand j'ai un manquement, je viens devant le trône de Dieu, je dis, Seigneur, je te demande pardon. La première chose qui sort, c'est la compassion de Dieu, quoi. Ouais. Et c'est ce qui amène Dieu à avoir pitié de nous. C'est ce qui amène Dieu à aller jusqu'à la pardonner à chaque fois. Et à maintenir cette promesse dans la première épître de Jean. Je suis fidèle et juste pour pardonner tout péché que tu viens me présenter. Ouais. C'est Dieu qu'on sert. C'est le Dieu qu'on est appelé à passer l'éternité avec lui, frères et sœurs. N'est-ce pas extraordinaire? Ce mot est une image de la grâce de Dieu agissant activement dans la vie du croyant. Et il faut être né de nouveau pour avoir cette compassion qui vient d'en haut, pas d'en bas, qui vient d'en haut. Sinon, ça ne demeure qu'au niveau des lèvres. Et Dieu veut que ça descende jusqu'au cœur. Et c'est par la nouvelle naissance que ça peut se produire dans nos vies. Car voyez-vous, lorsque nous traversons des tempêtes et des vallées obscures dans nos vies, nous ne les traversons pas seuls. Dieu veille sur nous, Dieu veille sur nos pas, et parce qu'il a de la compassion, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour notre pèlerinage terrestre. Remarquez deux choses ici concernant les promesses de Dieu. Dieu n'a pas promis que le chemin sur lequel nous allons marcher ou que nous sommes invités ou appelés à marcher sera facile, mais il a promis que sa grâce serait suffisante pour chacun de nous, pour répondre et combler notre besoin. Pensez à Paul. Regardez ce qu'il écrit, Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. « Afin que je ne sois pas rempli d'orgueil pour avoir reçu des révélations extraordinaires, il m'a été imposé dans mon corps une dure souffrance » pour m'empêcher d'être rempli d'orgueil. Et le Seigneur, il connaissait Paul, hein? Paul, si je te garde en pleine santé, tu auras la tête plus grosse que le cœur. Et moi, ce n'est pas ta tête que je veux gonfler, c'est ton cœur. Ouais. C'est pour moi qu'il l'a dit, hein? Pour m'empêcher d'être rempli d'orgueil. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, « Ma grâce est tout ce dont tu as besoin, car ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. » Frères et sœurs, Dieu, là, dans son Église, ce n'est pas des forts qui cherchent, hein? C'est des faibles. C'est des faibles. Parce que quand on est fort, là, on sert un petit Dieu. Et quand on est faible, on sert un grand Dieu parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Et des forts, Dieu n'en a pas besoin dans son royaume. Dieu, c'est des faibles. Les gens qui sont capables de s'humilier au moindre manquement. Les gens qui sont capables de compter régulièrement sur lui, faire toutes choses, parce qu'ils reconnaissent leur faiblesse. Et là, on n'est pas en train de parler d'un deux de pique, là. On est en train de parler d'un apôtre, le top, le modèle sur qui on peut compter après Jésus-Christ, l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a répondu, « Ma grâce est tout ce dont tu as besoin, car ma puissance manifeste pleinement ses effets, quand tu es faible. » Je préfère donc de tout mon cœur avoir à me vanter de mes faiblesses. Ouais. Vous imaginez spirituellement où on est rendu Paul pour être capable de dire ça? Ce matin, si j'arrivais et je vous distribuais des petits papiers par surprise, je dirais, marquez-moi trois qualités que vous avez. C'est facile, trois qualités, hein? Marquez-moi maintenant trois défauts que vous avez, ou trois faiblesses que vous avez. Il serait peut-être 5 heures à soir, puis on n'aurait pas tous répondu peut-être à 3. Hein. Et Paul dit, « Je me vante de mes faiblesses. » Ouais. Frères et sœurs, des fois dans la prière, je me dis, « Seigneur, quand je prends un temps de silence, je me dis, « Seigneur, sais-tu que je suis encore bourré d'orgueil, quoi? » Ça déborde encore dans mon cœur l'orgueil. Tu n'occupes pas encore toute la place que tu devrais occuper, Seigneur. Hey, t'es patient, tu as tout un travail encore à faire dans ma vie, toi. Hein? Ouais. Parce que moi, je ne suis pas capable encore de me vanter comme l'apôtre Paul de mes faiblesses. Hein. Juste vous, hein, mais pour moi, je ne suis pas encore capable aujourd'hui, devant cette chair, de me vanter de mes faiblesses. Hein. Ouais. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Parce que c'est quand on est faible qu'il est fort. C'est quand on est faible qu'il manifeste des miracles, qu'il accomplit des prodiges au milieu de son peuple. C'est quand on est faible qu'il est capable de nous transformer, de nous amener à la ressembler à la personne de Jésus-Christ. Ouais. Ouais. Et pour ça, souvent on a besoin d'être brisé, cassé en deux. Hein. Tellement qu'on est difficile à reconnaître qu'on est encore rempli d'orgueil, frères et sœurs. Ouais. Il s'agit juste qu'il nous arrive quelque chose qui ne nous plaît pas souvent. Et on voit que ce n'est pas nos faiblesses qui ressortent, mais plutôt c'est le moi, l'orgueil, l'ego qui manifeste, qui conteste ce qui lui arrive. Ouais. Et pourtant, la parole nous rappelle que Jésus n'a point ouvert la bouche face à toutes les accusations qu'il avait eues, à toutes les menaces qu'il avait eues. Ouais. Je préfère donc de tout mon cœur avoir à me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses. Je me réjouis des insultes. Je me réjouis des moments de détresse. Je me réjouis des persécutions. Je me réjouis des angoisses que je subis pour le Christ. Pas parce que j'ai fait le mal, parce que j'ai fait le bien. Hey, je ne suis pas capable de dire ça, moi, aujourd'hui. Hein. Ça, je vous dis, ça, c'est l'apôtre Paul qui vous parle. Hein. Ce n'est pas le pasteur. Hein. Ouais. Il se réjouit. Vous vous souvenez? Vous vous rappelez? Il se réjouit, frères et sœurs. Je me réjouis de mes faiblesses. Je me réjouis parce que les gens m'insultent à cause du nom de Jésus. Je me réjouis des moments de détresse que provoque le fait que j'ouvre ma bouche quand je parle de Jésus. Des persécutions parce que je parle de Jésus. Pourquoi je me réjouis des persécutions? Parce que le Seigneur a dit, celui qui voudra me servir sera persécuté. Ouais. Et c'est un signe. Ouais. C'est un signe des persécutions. Qu'on marche fidèlement dans les voies du Seigneur. Et des angoisses que je subis pour le Christ. Hey. Personne qui va être angoissé dans sa vie. Hein? Mais pour une seule cause, ça vaut la peine d'être angoissé pour le nom de Jésus-Christ. Il dit qu'il se réjouit. Ouais. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Dieu occupe toute la place qu'il doit occuper dans ma vie. Et là, je le vois accomplir des miracles et des prodiges. La grâce est souvent définie comme étant l'amour et la faveur non méritée que Dieu manifeste envers les pécheurs. Mais ce mot véhicule cette idée, mais il signifie bien plus que cela. Il fait également référence à la puissance de Dieu qui nous accompagne pour affronter les combats et pour supporter les temps difficiles que nous vivons. En ayant cela en tête, nous devrions toujours nous rappeler que peu importe ce que la vie nous réserve, nous pouvons avoir la certitude que le Seigneur nous donnera la force dont nous avons besoin pour faire face aux périodes difficiles que nous devons affronter dans notre vie. En tant que chrétiens, frères et sœurs, vous ne serez jamais confrontés à une situation où Dieu ne vous accordera pas la grâce de pouvoir traverser celle-ci sans en sortir grandi. Ouais. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous écraser. Dieu ne nous appelle pas à marcher avec lui pour nous détruire. Tout ce que Dieu vise à travers les épreuves, les difficultés, les persécutions, c'est de nous faire grandir. Ouais. Et malgré tout ce qui est arrivé à Jérémie, il en est sorti grandi. Malgré tout ce qui est arrivé à Paul, il en est sorti grandi. Et c'est dans notre vie spirituelle que le Seigneur veut travailler. Et c'est tout un contrat. Heureusement qu'on vit avec un Dieu qui est entêté. Hein? Ouais. Vous imaginez si au moindre échec, il l'abandonnait, on serait tous perdus. Hein? Ouais. Ouais. Mais Dieu, c'est un Dieu qui est persévérant, c'est un Dieu qui est patient. Et il dit, il y a quelque chose à faire avec toi. Tu as une mauvaise opinion de toi, mais moi, je te connais, je sais ce que je peux faire avec toi dans 100 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ouais. Ouais. Amen.
Amen.
Ouais. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 1 à 3, Dieu a parlé à Ésaïe d'une promesse particulière qu'il a faite à ceux qu'il aime. « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. N'aie pas peur, je prends ta cause en main. » Hey, ça s'adresse à vous, hein? Le peuple d'Israël, Jacob, l'Église, elle fait partie de cette descendance. Hein? Le chrétien fait partie du peuple de Dieu. Hein? « Je te rachète, je t'ai pris à mon service, tu m'appartiens. » Hey, je t'ai engagé pour une juste cause, dit le Seigneur. Oui. Attends pas ton salaire maintenant, ton salaire il t'attend en haut. Ça n'a pas de prix, c'est la vie éternelle. Magnifique, non? Amen! Oui! Il n'y a pas de chômage dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'assistés sociaux dans le royaume de Dieu. On est les enfants de Dieu, mais on est aussi les serviteurs. Service, ça veut dire il y a un travail, il y a une œuvre pour nous, le Seigneur. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. On peut penser au peuple d'Israël quand il est traversé. Hein? Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne brûleras pas. On peut penser à Shédrach, Meshach et Abednego. Hein? Ouais. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, moi, le Saint d'Israël, je suis ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Et ça fait référence à Jésus, hein? Ouais. Ouais. Ici, il parle qu'il donne sa rançon, hein? Ouais. Voilà la rançon que ça a coûté au Seigneur. Ça a coûté à Dieu pour nous racheter, frères et sœurs. Ça, c'est la rançon qu'il a dû payer, ça. Ouais. Ouais. L'échange qu'il a dû faire. Échanger un pécheur pour un juste. Échanger un pécheur pour un juste. Échanger un pécheur pour un juste. Ça, c'est l'échange qui se passe à la croix, ça. J'ai en tant que pécheur, je me présente devant la croix, je confesse mes péchés, je ressors avec quoi? Je ressors avec la vie de Jésus, quoi. Ouais. Avec la justice de Jésus sur moi. Ça, c'est l'échange qu'il y a à la croix. Hein. Mais ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui ne veulent pas confesser leurs péchés, reconnaître leurs fautes, bien, ils regardent la croix, hein, et ils se retournent, puis ils sont comme avant. Comme avant. Ouais. Il y a combien de monde, de gens dans le monde qui portent des croix, qui ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, que ça se limite à un objet de décoration. Ce matin, frères et sœurs, est-ce que Jésus, ça se limite à être un nom pour vous, une réalité dans votre vie? Ouais. Les païens prononcent le nom de Jésus. Hein. Mais ça ne veut rien dire pour eux. Ce n'est qu'un nom. Hein. Et Jésus, c'est aussi un prénom. Hein. Barabbas, c'était Jésus, hein, son prénom. Hein. Dieu était en train de dire à Isaïe ici, le simple fait que je suis présent dans ta vie, tu pourras traverser n'importe quel raz de marée ou n'importe quel feu et survivre. Non seulement tu survivras, mais tu seras aussi béni à travers ces épreuves et tu en tireras profit parce que je serai présent avec toi. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi Seigneur me fait-il une telle promesse? Pourquoi me fait-il un tel cadeau? Il vous donne la réponse au verset 4 dans Isaïe chapitre 43. Écoutez bien, c'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Quelle déclaration d'amour, quoi. Est-ce que vos conjoints vous ont déjà dit ça? Car tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Voilà pourquoi Dieu s'intéresse à sa créature. Vous voulez savoir le prix que vous valez pour Dieu? Fixez juste vos yeux là-dessus. Il n'est pas mort pour un éléphant. Hein? Il n'est pas mort pour un brochet d'une truite. Hein? Il est mort pour ceux qui avaient du prix à leurs yeux. L'homme et la femme, les êtres humains. Ça, c'est la valeur. Essayez d'évaluer maintenant ce que vous valez aux yeux de Dieu. Il a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour moi. C'est un verset extraordinaire, ce verset, le verset 4. Hein? Ouais. C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Regardez maintenant la promesse de sa présence, Isaïe 41:10, vous regarderez à la maison, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens te donner du courage, je viens à ton secours et je te soutiens, je te protège de ma main droite, de ma droite triomphante. Isaïe chapitre 41, un peu plus loin. Je prends ta cause en main, dit le Seigneur. Frères et sœurs, vous vivez des moments difficiles. Votre cause vous semble qu'elle semble être. Vous avez l'impression qu'elle est désespérée. Remettez-la entre les mains du Seigneur. Et comment je sais que je remets ma cause entre les mains du Seigneur, que je ne l'ai pas gardée? Que ça s'est limité simplement à des paroles, que je l'ai pas, que j'en suis libéré? Eh bien, quand j'ai fini de prier, hein, c'est plus mon affaire, cette cause-là, c'est l'affaire de Dieu. Hein. C'est l'affaire de Dieu. Hein. Et toi, tu crieras la joie. Je prends ta cause en main, dit le Seigneur. Et toi, tu crieras la joie que te cause le Seigneur. tu te féliciteras du sein d'Israël. Frères et sœurs, on est souvent confrontés à des situations où il est impossible pour nous de s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On la prend, on la donne à quelqu'un qui est capable de réaliser l'impossible. C'est pour ça qu'on est capable, comme Isaïe, d'être dans la joie. Parce qu'on sait que si nous, on n'est pas capable de s'en sortir, si on n'est pas capable de régler l'épreuve dans laquelle on traverse, la situation qu'on vit, le Dieu de l'impossible est capable de le faire. Ouais. Mais il faut lui remettre. Il dit, Seigneur, c'est plus mon problème maintenant, c'est ton problème. Et je m'appuie sur ta parole. Si vous avez reçu Jésus par la foi, si vous avez fait un pas avec lui, si vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit, pourquoi? À cause de ce qu'il a dit, sachez-le, je serai avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, Jésus, c'est Emmanuel avec nous. Et c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Et il promet d'être avec nous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. N'aie pas peur, je suis avec toi, dit Dieu, n'aie pas peur, ne sois pas inquiet. Oh oui, ton Dieu, c'est moi. Je te renforce, je viens à ton secours, je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Isaïe 41:10, face au danger, au malheur et à la souffrance, à la pauvreté ou même face à la mort, le croyant peut compter sur l'amour de Dieu, sur ses promesses. Dans ce passage de la Bible, Dieu promet quatre choses à son enfant qui est dans le trouble. Dieu lui promet d'être présent. N'aie pas peur, je suis avec toi. Deuxièmement, de lui donner de la force, je te renforce. Troisièmement, de venir le secourir, je viens à ton secours. Quatrièmement, de le protéger parfaitement. Je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Pas avec ma main puissante, pas avec ma pauvre main qui peut connaître la défaite, avec ma main puissante qui est victorieuse. Dieu est toujours victorieux. Amen. Amen. J'espère que ça, vous en êtes convaincus. Ah oui, hein? Parce que si vous pouvez penser que Dieu peut connaître la défaite, on est cuit, quoi, hein? Dieu sort toujours victorieux de toutes les situations qu'on lui remet. Il faut lui remettre. C'est plus ma cause, Seigneur, ça devient ta cause. L'Ancien Testament est plein de récits concernant les magnifiques bénédictions que reçoivent ceux qui bénéficient de la présence de Dieu. Regardez quelques exemples rapidement dans l'Ancien Testament. La présence de Dieu était tellement évidente dans la vie d'Abraham que même les païens autour de lui reconnaissaient la différence entre sa vie et la leur. Abimélech, Genèse chapitre 21-22. Abimélech parla à Abraham, disant, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » C'est un païen qui lui dit ça, un roi païen, qui était en train de dire à Abraham, « Il y a quelque chose de différent chez toi, Abraham. Dieu te guide, te préserve, te bénit partout où tu vas. » Dieu avait promis à Josué qu'aucun ennemi ne pourrait tenir contre lui, parce qu'il serait présent avec lui. Josué chapitre 1, versets 5 et 6. « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Prends courage et tiens bon, dit le Seigneur. » Oui, oui. Dieu dit à Gédéon, « L'Éternel est avec toi. » Et ça, c'est, tu te demandes si le Seigneur n'est pas en train de lui raconter une blague, quoi. Hein? « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Moi, j'aurais dit « vaillant zéro, hein. » Parce qu'il était caché, c'était un peu heureux. Il était caché derrière une machine pour moudre le blé, pour moudre le grain, pour ne pas se faire voler par les ennemis. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dit? « Va avec cette force que tu as et délivre Israël. » Hein? Là, tu entends le Seigneur qui te parle, tu regardes, vois s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre en arrière de toi, quoi. Hein? Tu es caché. Ouais. Et pourtant, il s'adresse à Gédéon. Hein? Gédéon, cette force qui est en toi, est tellement puissante qu'elle peut sauver Israël. Et cette force, Gédéon, c'est ma présence. L'Écriture, frères et sœurs, nous présente Gédéon comme étant un lâche. Pourquoi le Seigneur l'a-t-il appelé vaillant héros? C'est parce qu'il voulait prouver à Gédéon ce que n'importe quel homme pouvait faire quand Dieu est présent dans sa vie. Personne ne peut lui résister. Il y a eu une reine catholique, hein, en Angleterre. Elle s'appelait Marie la Sanglante, hein, parce qu'elle faisait tuer tout ce qui était protestant. Elle était bloquée, arrêtée par une seule personne, John Knox. Elle avait peur des prières de John Knox. Elle disait, ouvrez-moi à John Knox pour l'empêcher de prier. Je suis paralysée, j'entends ses prières. Elle ne pouvait plus persécuter personne quand John Knox se mettait à genoux. Et c'est lui qui la freinait. Un seul homme dans toute l'Angleterre qui priait. Oui. Eh bien, non seulement il a prié pour la paralysée, mais il l'a fait débarquer de son trône. Ouais. Frères et sœurs, quand Dieu est présent dans nos vies, il n'y a personne qui peut résister à un chrétien. Personne. Dieu avertit à Jérémie que la nation entière se détournerait de lui, rejetterait ses prophéties. Et pourtant, Dieu lui avait dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi, je te protégerai, je te délivrerai. » Jérémie 15, 20. Ce que Dieu était en train de dire à Jérémie ici, c'est ceci. Ça n'a pas d'importance si le pays entier se retourne contre toi, Jérémie. Tout ce qui compte, c'est ma présence avec toi. Amen. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'un chrétien, quand il accepte le Seigneur Jésus, il arrête de vivre pour plaire aux hommes. Il vise à plaire à Dieu. Ouais. Tout ce qui compte, c'est ma présence avec toi. Sois sûr que je suis avec toi. Frères et sœurs, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Pourtant, Dieu attache une condition à sa présence dans nos vies. Cette condition se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 15. Au chapitre 14, le roi Asa avait conduit les armées de Juda vers une grande victoire sur l'armée éthiopienne, forte d'un million d'hommes. Asa témoigne que c'est la présence de Dieu qui a dispersé les ennemis. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Alors qu'Asa et ses armées menaient un triomphe, en 2 Chroniques chapitre 15 que je suis en train de lire, alors qu'Asa et ses armées menaient une triomphale procession vers Jérusalem, un prophète nommé Azaria les rencontra à la porte de la ville avec ce message de la part de Dieu. « Écoute-moi bien, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant de longs jours, il n'y a pas eu pour Israël ni vrai Dieu. Mais au sein de leur détresse, ils sont revenus à l'Éternel. Le Dieu d'Israël, ils l'ont recherché et il s'est laissé trouver par eux. Voici le secret pour obtenir et faire en sorte que la présence de Dieu demeure dans nos vies. L'Éternel le rappela à Asa noir sur blanc et ce sans prendre de détours. Asa, n'oublie jamais comment tu as obtenu cette victoire. Tu m'as recherché de tout ton cœur en te tournant totalement vers moi quand tu étais dans la détresse et je t'ai envoyé ma présence. Ce n'est pas toi qui as fait fuir tes ennemis, mais moi, parce que j'étais présent à tes côtés. Frères et sœurs, avez-vous l'assurance que Dieu est présent à vos côtés ce matin? Oui, oui. Azaria dit à Asa, te rappelles-tu à quoi ressemblait le royaume avant que tu ne prennes le pouvoir? Tout allait à la dérive, sans loi, sans direction, sans enseignement, juste. Chacun avait sa propre loi, faisant ses propres affaires. Et les promesses de Dieu, frères et sœurs, ne changent pas, il affirme. Pour le reste de votre vie, aussi longtemps que vous continuerez à me chercher, je serai toujours avec vous. Chaque fois que vous m'appellerez, je me laisserai toujours trouver par vous. Frères et sœurs, chacun peut ressentir la présence du Seigneur s'il la recherche simplement. C'est pas extraordinaire, ça? C'est pas merveilleux? Ouais. L'Éternel, vous le trouverez, 2 Chroniques 15:2. Et le mot hébreu pour trouver, c'est matza, qui signifie sa présence, qui rend capable, qui bénit. En résumé, ce verset nous dit, recherchez l'Éternel de tout votre cœur, et il viendra à vous en manifestant sa présence. Sa présence sera une force toute puissante qui transpirera de votre vous, qui transpirera de votre vie, pardon. Hey, frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que Dieu en réserve pour vous et pour moi. C'est pas extraordinaire, ça. Les promesses de Dieu sont sûres et certaines, mais elles sont toutes accompagnées d'une condition. Elle requiert plus que notre simple coopération. Une obéissance à sa parole, c'est la condition pour toutes les promesses de Dieu. Et si nous désobéissons, Dieu n'arrêtera jamais de nous aimer. Mais si nous demeurons dans le péché, sa présence va nous faire défaut et nos vies ne seront plus un instrument pour qu'il manifeste sa puissance à travers nous. Nous combattrons alors selon nos petits moyens humains limités et nous nous débattrons sans aucune puissance et sans savoir quel chemin nous devons suivre. Quand Israël se trouvait dans le désert, Dieu manifestait sa présence au milieu de son peuple par une nuée, et celle-ci était une manifestation physique de l'engagement de Dieu d'être avec son peuple. Dans cette nuée, je ne sais pas si vous en rappelez, cette nuée, elle descendait, et elle venait couvrir le tabernacle la nuit et jour, agissant comme un guide dans tout ce qu'il devait entreprendre. Et quand la nuée se déplaçait, le peuple se levait et la suivait. Et quand elle restait sur place, le peuple restait sur place. Le peuple n'avait pas besoin de tenir des réunions de comité pour essayer de prévoir quelle direction il devait suivre ou se poser des questions pour le futur. Il mettait sa confiance dans cette nuée visible qui confirmait la présence de Dieu au milieu d'eux. Frères et sœurs, la nuée visible aujourd'hui, hein, c'est sa parole. Vous voulez savoir quelle direction vous devez prendre? Lisez sa parole. Dieu va vous montrer sur quel chemin il veut vous conduire. Et Dieu va vous promettre une chose. Je ne serai pas en arrière de toi. Je suis déjà en avant de toi. Je t'ai déjà précédé sur le chemin que je te montre à suivre. Ouais. Dieu n'était pas derrière le peuple d'Israël dans la colonne de fumée. Il était en avant du peuple d'Israël. Ouais. Et Dieu connaissait déjà le chemin qu'il voulait faire prendre au peuple d'Israël. Ouais. Et quand il leur a fait faire un détour, le pharaon se moquait de ce Dieu. Il a dit, c'est pas bon, moi, c'est pas un très, très bon stratège. Hein. On les a coincés. Mais Dieu nous dit pourquoi il leur a fait faire un détour. Parce que le peuple d'Israël, c'était pas des guerriers. C'était pas des soldats formés. Et Dieu leur a fait prendre un détour, justement pour éviter qu'ils se découragent, mais aussi pour manifester sa gloire, sa puissance au milieu de son peuple. Frères et sœurs, on n'est pas tout seul. Est-ce que vous pensez que vous êtes tout seul? Non seulement Dieu est à nos côtés, mais Dieu habite en nous, on en a parlé la semaine dernière. Et Dieu veut diriger nos pas. C'est merveilleux. Ouais. Moïse rechercha Dieu pour une manifestation continuelle de sa présence. Et il me reste 5 minutes. Alors je te connaîtrai, dit Moïse. Et Dieu lui répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ouais. Frères et sœurs, peu importe le service dans lequel on est impliqué, quand le Seigneur marche avec nous, on n'est pas épuisé, on n'est jamais épuisé. On est toujours dans le repos. On appelle ça le repos de la foi. On vit toujours dans le repos. La requête de Moïse paraît suffisante pour beaucoup de chrétiens. Nous voulons tous ressentir la présence de Dieu dans nos vies pour nous conduire, pour nous guider, pour nous fortifier et pour nous bénir. Qu'est-ce qu'un chrétien pourrait désirer de plus, frères et sœurs? Pourtant, avoir l'assurance de la présence de Dieu n'était pas suffisant pour Moïse. Il savait qu'il y avait plus encore. Et il s'écria, « Fais-moi voir ta gloire. » Et frères et sœurs, ça devrait être la prière de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Si nous savons que Jésus est présent au milieu de nous ce matin, on doit faire un petit pas plus haut et dire, « Seigneur, manifeste ta gloire maintenant au milieu de ton peuple. » C'est ce que ton peuple a besoin de voir pour se fortifier dans sa croix. La gloire de Dieu, frères et sœurs, ce sont les attributs de Dieu. Regardez ce qu'il dit. C'est pas moi qui l'invente, hein. Dieu montra sa gloire à Moïse, mais elle n'apparut pas dans un nuage lumineux ou dans une démonstration de puissance semblable à un tremblement de terre. Non! Dieu exprima sa gloire dans une simple révélation de sa nature ou de son caractère. Il est écrit, l'Éternel passa devant lui en proclamant, l'Éternel est un Dieu compatissant qui fait grâce, qui est lent à la colère, ça veut dire patient, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations et qui pardonne la faute, le crime et le péché. Dieu manifesta sa gloire à Moïse en lui révélant sa bonté, sa miséricorde, son amour et sa compassion. Et c'est ce qu'on a besoin de voir dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Oui. Faire en sorte que les langues qu'on utilise, souvent les paroles qu'on utilise pour calomnier, pour médire, Dieu puisse les transformer pour sa gloire, pour qu'on puisse bénir, pour qu'on puisse le glorifier, pour qu'on puisse le louer. L'Église a besoin de voir la gloire de Dieu se manifester. Et ce, dans tous les domaines. Il y a un pasteur hier qui a demandé pardon au Seigneur parce qu'il y avait des couples qui vivaient ensemble qui n'étaient pas mariés et qui ne savaient pas quoi faire de peur d'être jugés. On en est rendu là, frères et sœurs. C'est vivre et laisser vivre dans nos églises, dans beaucoup d'églises, frères et sœurs. Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de juger, qu'il nous dit. C'est ce qu'il dit dans sa prière, hein. Ben, dans Corinthiens, Paul, il est clair, hein. L'homme spirituel juge de tout, hein. Regrette, là. Il faut arrêter, hein. Juge de tout. Ouais. L'homme spirituel, c'est le chrétien né de nouveau. Il juge de tout, pas à partir de lui, ce qu'il pense qui est vrai, à partir de la parole de Dieu. Et s'il juge à partir de la parole de Dieu, si Dieu ne se trompe pas, ben il ne peut pas se tromper, l'homme spirituel. Hein? Ouais. Mais moi, je n'ai pas besoin de donner mon opinion. Je n'ai pas besoin de dire ce que je pense, parce que moi, mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, elle vaut la vôtre. Et ce que je pense, ça vaut ce que vous pensez. Donc, ça ne veut rien dire. Mais par contre, ce qui est important, c'est de donner l'opinion de Dieu, ce que Dieu pense. Et là, on a le droit de juger. Hein? Là, c'est pas Jacques Hudon qui le dit, hein? C'est l'apôtre Paul dans Corinthiens. Hein? L'homme spirituel juge de tout. Alors, quand deux personnes vivent ensemble, qui ne sont pas mariées, c'est pas Jacques Hudon qui le dit, je vais dire ce que Dieu dit à propos de ça, quoi. C'est ça, hein? Alors maintenant, si tu n'es pas content, ben fâche-toi pas après moi, hein? Va le voir, lui, hein? Va lui parler, quoi. Tire ton plan avec lui, hein, mais viens pas m'embêter, quoi. Moi, je fais juste citer les Écritures, hein. C'est pas mon opinion que je te donne, hein. Et on a besoin de le faire dans l'Église, hein. Parce qu'on connaît beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Et il y a des serviteurs du Seigneur qui sont coincés avec ça, hein. La peur de perdre des membres, hein. La peur d'être jugé, la peur de perdre leur ministère, hein. On est là-dedans, là. Tous les efforts qu'on fait pour amener une âme au Seigneur, hein. Si seulement on se contentait non seulement de la présence de Dieu, mais que Dieu manifeste sa gloire, ben on devrait construire d'autres églises ici aux alentours, parce que cette église, elle ne suffirait pas. Et un culte le dimanche, elle ne suffirait pas. Il y aurait un culte à toutes les heures et demie ici dans cette église, quoi. Ouais. Et ça, ça ne vient pas du pasteur, hein. Tu es convaincu que Dieu est présent dans ta vie ce matin, mon frère et ma sœur. Est-ce que ta prière, ce n'est pas qu'il manifeste sa gloire aussi dans ta vie? Voir Dieu accomplir des miracles à travers toi, est-ce que tu exploserais pas de joie? Voir Dieu accomplir des prodiges dans ta vie, est-ce que tu pèterais pas le feu? Hein? Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Simplement par ton regard, simplement par ton comportement, comme le roi avec Abraham, toi, tu as quelque chose qui est différent, et ça, ça m'attire. Et Jésus l'a dit, c'est à travers vous que je vais attirer les hommes à la lumière. Frères et sœurs, est-ce qu'on brille à ce point pour que les gens voient qu'on est différent? Ouais. On a prié pour un réveil hier. On a besoin d'un méchant réveil, hein. Ouais, parce que l'Église, elle ne dort pas, hein. Elle est dans un coma profond, hein. Trouvez que le message est dur ce matin, allez sur Internet, allez lire les messages qui se disaient il y a 100 ans. Et le pasteur, c'est du miel qu'il nous donne. Et Dieu agissait avec puissance, hein, à travers ces hommes-là. Charles Finney prêchait, il n'avait pas besoin de prononcer rien, les gens voyaient l'enfer, voyaient l'enfer au milieu de l'église, quoi. Et les gens se jetaient par terre pour confesser leurs péchés. Les ivrognes étaient guéris comme ça. Les gens qui battaient leurs femmes étaient guéris comme ça. Ouais. Les gens qui faisaient rien de leur vie étaient guéris comme ça. Ouais. Ils devenaient des serviteurs et des servantes de Dieu, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on ne se contentait pas uniquement de recevoir la présence de Dieu dans nos vies, mais Dieu manifestait sa gloire. Et c'est ce que Moïse a voulu. Seigneur, je sais que tu es présent. Tu es présent. Tu étais présent dans la colonne de feu. Tu étais présent à tel moment. Mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est magnifique, la gloire de Dieu. Et Dieu va lui montrer une partie de sa gloire. Il va lui montrer des traits de caractère, sa gloire. Et il en reste deux. La gloire de Dieu, c'est la présence et la puissance de Dieu au milieu de son peuple. Est-ce que ça ne serait pas béni qu'on se mette à prier pour ça? Seigneur, manifeste entièrement ta gloire au milieu de ton peuple. Manifeste ta gloire dans ma vie. Et demandez à Dieu de manifester sa gloire dans votre vie. Et il va peut-être vous montrer qu'il y a quelques crasses qui restent encore dans votre cœur que vous ignorez. Ouais. Et ça va être pour votre bénéfice, c'est pas pour votre honte, pour votre bénéfice, hein, pour le bénéfice du royaume de Dieu. Ouais. Honnêtement, là, honnêtement, frères et sœurs, hein, je veux pas juger, hein, je vous partage à cœur ouvert ce matin, là. Est-ce que vous vivez vraiment la vie chrétienne que Dieu vous demande de vivre? Ou si vous vous contentez de vivre le minimum durant la semaine. Alors, vous vous attendez à quoi de la part de Dieu? Si on vit le minimum, on peut s'attendre à quoi de la part de Dieu? Moi, je vais vous dire, hein. Je vais vous dire, Dieu doit retenir sa colère contre l'Église aujourd'hui, hein. Dieu doit retenir son jugement contre l'Église de Dieu aujourd'hui, hein. Ouais. Ouais. Une Église de consommateur, hein. C'est ce qu'on a dit hier. Consomme, du service. Moi, s'il n'y a pas ça dans cette Église-là, j'y vais pas. Ah, ça, c'est pour moi, ça, ouais. L'Évangile à la carte, hein. Frères et sœurs, on est à quelque part, là. Moi, je prie que Dieu puisse manifester sa gloire, quoi. Pas juste dans son Église, mais d'abord dans ma vie. D'abord dans ma vie, quoi. Ouais. Et surtout, je prie pour vous, pour que Dieu manifeste sa gloire dans votre vie. Ouais. Quand Dieu révéla à Moïse toutes ces choses à propos de sa nature, il lui révéla aussi qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Azaria proclama cette parole au roi Asa, à son homme le plus prospère. « Si vous méprisez la gloire de Dieu, si vous excusez votre péché et que vous refusez d'obéir à l'Éternel, il ne vous purifiera pas. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » 2 Chroniques 15, 2. « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, vous abandonnera. » Et ces histoires de l'Ancien Testament ne sont pas des lettres mortes. Elles sont là pour nous encourager et nous exhorter à rechercher la présence de Dieu dans nos vies. Nous pouvons remercier Dieu pour ce que sa présence a apporté à Abraham, à Josué, à Gédéon, à Moïse, à Jérémie et à tout le peuple d'Israël. Mais chacun d'entre nous ce matin, on pourrait apporter un témoignage puissant de ce que la présence de Dieu a fait pour lui. Je suis persuadé. Persuadé. Elle a guidé nos vies, elle nous a ouvert des portes, elle a déplacé des montagnes, des obstacles, elle a fait fondre, voire briser les cœurs, et elle nous a donné du courage pour continuer. Et dans le Nouveau Testament, ce que Dieu nous dit est si simple, « Prenez le temps d'apprendre à connaître mon Fils Jésus-Christ. Sondez ma parole et recherchez dans ma parole et dans l'intimité de votre vie de prière, ma gloire. Alors lorsque vous demeurez en ma présence, vos yeux commenceront à s'ouvrir sur ma gloire, car je vous l'ai révélé pleinement en Christ. » Il est la pleine révélation de mon amour, de ma grâce, de ma miséricorde et de ma bonté. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par la personne de Jésus-Christ. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu sur terre. Ouais. Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et une des prières de Jésus, c'est que nous fassions un. Un. Lorsque vous saisissez jusqu'à quel point Dieu vous aime et combien il est miséricordieux envers vous, vous aimez davantage les autres et vous êtes plus miséricordieux envers eux. C'est alors que nous avons non seulement la certitude que Dieu est présent dans nos vies, mais nous le voyons également manifester de sa gloire à travers nous. Jésus a dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Et qu'est-ce qu'il lui a montré dans la gloire de Dieu? Il a ramené Lazare de la mort à la vie. Ça fait partie de la gloire de Dieu. C'est un miracle. Frères et sœurs, voulez-vous voir la gloire de Dieu? Voulez-vous voir Dieu ramener des morts spirituelles à la vie spirituelle? Ça commence d'abord par être sûr que Dieu est présent dans notre vie. Qu'il n'y a rien qui peut empêcher Dieu dans notre vie, dans notre cœur, de manifester sa puissance, sa gloire. Et Dieu veut manifester sa gloire aujourd'hui, comme il l'a fait à l'époque de Moïse, comme il l'a fait à différentes périodes de l'Église, frères et sœurs. Et vous savez quoi? Dieu veut vous utiliser, vous. Dieu veut vous utiliser, moi. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on est précieux à ses yeux. Parce que Dieu nous aime. Il nous accorde ce privilège extraordinaire qu'il n'a même pas accordé aux anges. Aux anges qui l'adorent et qui le louent 24 heures sur 24. 365 jours par année. Ouais. Il n'a même pas permis ça aux anges, frères et sœurs. Dieu veut nous ouvrir les yeux pour que nous recevions la lumière dans notre intelligence, afin que nous comprenions à quelle espérance il nous a appelés, quelle est la richesse des biens magnifiques qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent, et de quelle puissance extraordinaire il dispose pour nous, les croyants. Ce n'est pas Jacques Hudon qui est en train de parler, je suis en train de vous citer Éphésiens, chapitre 1, versets 18 et 19. De quelle puissance extraordinaire il dispose pour nous, les chrétiens. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ de la mort à la vie. Oh, frères et sœurs, quelle puissance Dieu a à notre disposition. Et Dieu jamais est jamais en rupture de stock. quant à sa puissance. Il y en a toujours à donner, toujours à déverser sur les membres de son peuple. Frères et sœurs, on a un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Amen. Si Dieu est fidèle à cause de sa grâce, il est aussi fidèle à cause de ses promesses. Et ses promesses, elles sont sûres et certaines, on peut compter sur ses promesses. Dieu est un Dieu merveilleux, frères et sœurs. Qu'on se lève et qu'on chante un petit cantique, parce que le temps passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit cantique à nous proposer?
Le 182 dans les gemmes.
182 dans les gemmes. 982. On le connaît? On... Le 45, j'avais pris compte les bienfaits de Dieu, où j'aime ta présence, Jésus. Qu'est-ce que tu en penses, Ernest? J'aime ta présence, Jésus, c'est bon? Ah, OK. C'est bon pour les guitares, ça? En attendant qu'on cherche, eh bien, je vous donne, recevez la bénédiction de la part du Seigneur, allez dans la paix, dans la joie de Dieu. Et rappelez-vous que vous pouvez compter toujours sur la présence de Dieu, mais aussi que la gloire de Dieu est à votre disposition jour après jour. Et le peuple de Dieu dit
Amen.
Amen. Chantons ensemble. Ah oui. C'est vrai, collecte mission, donc ceux qui se sont engagés à donner pour la mission vont demander à Piotr peut-être et à Michel.